6h28 de retour dans Trudeau Landry. Beaucoup de choses à venir jusqu'à 14h. On va jaser de hockey, notamment avec Martin McGuire. On va accueillir une nouvelle collaboratrice dans Trudeau Landry.
Une vieille. Les gens la connaissent, ouais. Les gens la connaissent.
Je pense que les gens, oui, la connaissent.
Mais c'est le retour de Léa Streliski tantôt. Non, fais des farces. Non, Léa, elle collabore encore dans le réseau.
Ben, c'est dans. Oui.
Oh, oui.
Ben, pas avec une autre radio aussi à Montréal, là?
Oui, je pense que oui. Oui, oh, oui.
OK.
Oh, oui.
On la salue. Elisabeth Crête, qui va être collaboratrice avec nous sur une base assez régulière. Là. On va être bien content d'entendre Elisabeth, et je sais que vous allez être content aussi de l'entendre.
Oui.
Parlant de gens qu'on aime entendre. Notre prochain invité, on avait hâte de lui parler. On avait hâte de prendre de ses nouvelles. Même, on s'inquiétait un peu pour lui. On en a parlé.
Sur Twitter, il avait l'air de dire cette semaine que c'était rendu plate, le discours de
Trump.
C'est ça. Oui.
Fait qu'on va aller prendre des nouvelles de Raphaël Jacob, puis peut-être sur le site parler un peu de politique américaine.
Peut-être.
Salut Raphaël, comment ça va?
Je vous rassure, ça va bien, messieurs, et vous?
Ah, ben oui, ça va bien.
Oui, mais tu trouves-tu ça plate? Soyons honnêtes, là. Tu sais, on a eu beau tous faire mille et un reproches au style de Donald Trump. En même temps, c'est pas une surprise qu'avec une administration plus stable, très, très, très différente de ce qu'était Donald Trump, veut pas, le côté politique spectacle est disparu, là, tu sais.
C'est vrai, mais sais-tu quoi, en même temps, si je peux revenir sur le petit tweet dont tu parles, là, ce que je voulais dire, je sais pas à quel point ça a été clair, vous avez été bien compris par les gens qui l'ont lu, mais c'est pas que Biden ou ce qui se passait présentement était plate, c'est que Trump est rendu plate.
Oui,
c'est ça que je voulais dire, parce que, en fait, honnêtement, depuis son départ, il y a pas une journée où je trouve ça plate. Il y a pas une journée où je me dis, hey, si jamais les gars, ils m'appellent pour qu'on fasse une chronique ensemble, je sais pas de quoi on va pouvoir parler parce qu'il y a rien à dire. Non, il y a immensément de matériel. En fait, je dirais que c'est quasiment plus intéressant maintenant parce que justement, on a d'autres choses à traiter que le plus récent tweet controversé du président.
C'est que c'est redondant. C'est qu'il était au téléphone à Fox News cette semaine, puis c'est encore le même discours. Je me suis fait voler l'élection, puis les médias, puis c'est boring. Tu sais, ce discours-là qui n'en finit plus de finir, c'est vrai que c'est ça qui est plate.
Mais reste, Raphaël, que ce que je disais, là, je le maintiens sur le fait que l'aspect politique spectacle de Donald Trump va avoir beaucoup contribué à la vitrine que la politique américaine a eue, par exemple, chez nous au Québec.
Oui.
Je me souviens d'avoir dit, lorsqu'il a été battu, peut-être que l'avantage que Donald Trump aura eu, c'est d'intéresser les gens de façon pérenne, si on veut, à la politique américaine. Ça, c'est sûr que toi, ça t'intéresse, t'es un passionné, t'es un spécialiste, mais est-ce que tu le sens que maintenant, l'aspect plus traditionnel de la politique, les tractations, tout ça, est-ce que tu vois une certaine rétention dans l'intérêt des gens?
C'est tellement une bonne question, Joe. C'est une question que je me posais avant l'élection, parce que on savait pas comment ça allait virer d'un bord ou de l'autre. Puis, ce que je me disais, c'est un petit peu ce que je semble observer, puis c'est vraiment pas scientifique, mais tu sais, tu me demandes mon feeling. Le feeling que j'avais, puis le feeling que je ressens présentement, c'est que c'est moins intense que c'était, surtout dans la période préélectorale, parce qu'évidemment, tout le monde est arrivé là-dessus. En même temps, ça n'a rien à voir non plus avec où on était il y a 4 ans, ou il y a 8 ans, ou il y a 12 ans. C'est-à-dire que, tu sais, tu parles, c'est un beau mot d'ailleurs, Perrin, c'est digne d'une partie de
Scrabble. J'avais le dictionnaire à côté de moi.
Ouais.
Bon, ils sortent pas ça souvent des beaux mots de main.
Non, en effet. Mais très sérieusement, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est Perrin là-dedans, dans le sens où il va avoir créé un intérêt, puis surtout ce qui est intéressant, des connaissances auprès de gens qui, avant lui, se seraient jamais intéressés, ou tout au moins, se seraient jamais autant intéressé à la vie publique américaine, à la politique américaine. Puis écoute, je reçois maintenant, fait que tu sais, je te parle pas de quand Trump était président. Maintenant, depuis qu'il est parti, des messages sur Twitter, par courriel, des fois des gens qui paraissent, qui sont capables de me reconnaître même avec le masque, et qui sont des questions, des commentaires qui sont quand même impressionnant dans la mesure où c'est des connaissances que plusieurs Américains ont même pas de leur propre système.
Sur les institutions. Hein,
sur les institutions, ouais. Sur tel ou tel sénateur, sur tel ou tel projet de loi. Fait que oui, c'est une super bonne question. Est-ce que c'est aussi intense qu'en octobre dernier? Non, mais je pense que honnêtement, ça aurait pas pu l'être, même s'il avait été réélu. Mais je pense quand même que oui, il va avoir laissé une marque. Combien de temps elle va durer, je sais pas. Mais en mars 2021, pour moi, c'est clair qu'il y en a une qui est restée.
Bon, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là avec Joe Biden? Là, on parle d'une espèce de tension entre lui puis Vladimir Poutine. C'est tout ça qui retient l'attention
pas mal?
Ça snargue
pas mal.
Oui, ça snargue, effectivement. On se parle de changement ou non après le départ de Trump. tu sais, on se pense que bien des gens qui se disaient, ben, tu sais, ça va être assez mollo, la diplomatie à l'ère Biden. Écoute, juste depuis 24 heures, je vais te faire deux points. Russie et Chine, qui sont peut-être, en fait, les deux plus importants adversaires géopolitiques des États-Unis dans le monde. Avec la Russie, Biden va déclarer publiquement qu'il est allé traiter Vladimir Poutine de tueur. Là, ça crée évidemment des assez vives tensions diplomatiques entre les deux gouvernements. Poutine, personnellement, finit par répliquer hier en challengeant Joe Biden à un débat. Dit, si le nouveau président américain a un problème avec moi, pas de problème, on va débattre en public. Tu sais, on s'entend qu'on voit pas tout à fait ça souvent. Et en parallèle, ce qui était pour moi la plus grosse histoire de la journée, c'était même pas ça, c'était ce qui se passait avec la Chine. C'est-à-dire que là, les États-Unis et la Chine sont en train de tenir un sommet en Alaska. Premier sommet, évidemment, de la sorte depuis le changement d'administration. On sait que ce sont des relations qui sont très, très particulières, parce que d'un côté, ce sont les deux plus grosses économies de la planète, évidemment, de plus en plus intégrées. En même temps, ce sont, de façon assez évidente, des rivaux, et potentiellement, éventuellement, peut-être même plus que ça. On le souhaite pas, mais c'est possible. Et donc, s'ouvre ce sommet-là, et la délégation chinoise arrive en tirant à boulet rouge sur les Américains en disant « Ce sont les pires cybercriminels de la planète. Ils violent les droits humains depuis toujours. » Comment ça fait la morale aux Américains? Donc, ça donne le ton. Fait que c'est quand même pas rien ce qui se passe en ce début de mandat-là.
Question que je trouve intéressante. Il y a en ce moment deux Canadiens détenus depuis 830 jours, qui font face à la justice. Michael Spavor a eu son procès hier.
Excuse-moi, Joe, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est un procès, t'es-tu sûr du mot?
Ben, c'est simulacre de procès. Là. Ça a duré 2 heures, il est en attente de son jugement. L'autre Canadien, Michael Kovrig, va avoir son procès en début de semaine prochaine. Si on est à leur place, ces deux Canadiens-là, là, et s'ils avaient là, de façon... utopique, accès à un média. Est-ce qu'ils regardent ce qui se passe à la Chambre des communes à Ottawa ou ils regardent ce qui se passe au sommet États-Unis-Chine pour savoir ce qui va se passer avec eux?
Ça va être vendredi après-midi puis tu sors l'article écrit. L'ordre des bonnes questions, Joe, c'est vraiment une bonne question. Je pense que il faut d'abord regarder à Washington ce qui se passe. Ouais. Parce que, disons-le très clairement, ces deux types-là ont été arrêtés d'abord et avant tout parce que le Canada avait aidé les États-Unis dans tout ce qui était l'affaire Huawei. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, là. Donc, cette bibitte-là, elle part de Washington. Ça, pour moi, c'est clair. La grosse question, l'autre grosse question avec toi, Jérôme, vous me la posiez, c'est de savoir à quel point les Américains vont vraiment pousser pour les faire libérer. Dépendant, évidemment, de ce qui se passe dans cette espèce de... Je le mets moi-même là entre très gros guillemets, cette espèce de procès complètement bidon-là, parce que il n'y a pas plus tard qu'à peine une couple de semaines, ce qu'on entendait de Washington, c'est que il n'y avait plus rien qui se passait, là. L'administration américaine était complètement au neutre pour ce qui était d'efforts moindrement musclés pour essayer de les faire libérer. Mais j'ai un petit peu de misère à croire en quoi le Canada peut avoir assez de poids présentement dans la dynamique actuelle pour faire quoi que ce soit d'autre que demander justement de l'aide musclée de la part des Américains. Puis elle semble pas être là présentement, malheureusement.
Hey, peut-être une dernière question, tant qu'à parler de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a la question du racisme anti-asiatique. Il y a eu, des fusillades dans des spas, entre autres, à Atlanta, en Géorgie. Puis ce serait les Asiatiques, là, qui seraient visés par ces attentats-là. Est-ce que c'est quelque chose qui risque de déborder, tu penses, de prendre de l'ampleur, cette histoire-là?
Ben, ça a déjà pris pas mal d'ampleur, ne serait-ce que par la nature assez. C'est que c'est tellement particulier pour toutes les fusillades qu'on a eues aux États-Unis. Il y en a certaines, je pense, qui sortent du lot. Tu sais, qu'on a eu Columbine, c'est quoi, c'était en 99. Je pense qu'avant ça, il y a personne qui avait pu concevoir qu'on aurait une fusillade de masse dans une école secondaire. 15 ans plus tard, qu'on a eu Sandy Hook, je pense qu'avant ça, il y a à peu près personne qui pouvait concevoir qu'on aurait une fusillade de masse dans une école primaire. Je suis pas en train de vous dire que ce qui s'est passé cette semaine à Atlanta, puis en banlieue d'Atlanta, ça a la même portée, la même ampleur. Mais on s'entend qu'a priori, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde de sain d'esprit là qui va se dire « Ah, ça se peut que dans des spas, il y ait des fusillades de masse. » Pourtant, c'est ça qu'on a eu. Et comme tu le mentionnes, sur les 8 victimes qu'on a dénombrées, il y en avait 6 qui étaient des femmes asiatiques. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là qui a été, en bon français, flagué tout de suite. En même temps, pis c'est super sensible comme enjeu, la chose, je pense, la plus prudente à faire, c'est ce que les autorités ont fait, c'est-à-dire dire « Présentement, on est en train d'enquêter pour déterminer de façon définitive, ou en tout cas de façon plus claire, le motif. Ce qu'on sait, factuellement, présentement, c'est que le suspect, parce qu'il y en a un, presque assurément, c'est le seul coupable qui a fait ces différentes fusillades-là. Clairement, là, c'est là-dessus, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre de confirmation de quoi que ce soit. Clairement, souffre de graves problèmes de santé mentale et a dit que il souffrait d'une espèce de dépendance de nature sexuelle et associé ces établissements-là qui sont plus que des spas qu'on peut avoir ici, là, qui ressemblent souvent plus à des endroits, disons, où on peut se faire masser et ou autre. Mmh, là, et que donc, d'assassiner ces personnes-là, c'est une façon, si on veut, pour lui, de se couper de cette tentation-là. Donc, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Mais, en même temps, évidemment que c'est compréhensible qu'il y ait bien des gens qui voient possiblement des motifs raciste là-dedans, surtout quand on connaît disons, l'histoire américaine assez chargée en la matière.
En une minute, Raphaël, juste faire le point sur l'opération de vaccination. Là, Joe Biden, est-ce que je me trompe ou il a atteint son objectif de 100 millions de doses avant les 100 premiers jours de sa présidence? Et ça va tellement bien qu'ils vont même nous prêter 1,5 million de doses de vaccins.
Oui, mais ça c'est que tu vas falloir que tu me laisses peut-être un tout petit peu plus qu'une minute. Je ne vais pas trop défoncer, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, pour ce qui est de ce qui se passe aux États-Unis en tant que tel, oui, ça va hyper bien. Écoute, juste chez les personnes de 65 ans et plus qui sont évidemment disproportionnellement beaucoup plus à risque de la maladie, des complications, on est rendu à peu près les deux tiers de cette population-là clé qui a reçu au moins une dose et à peu près le tiers qui est entièrement vacciné qui en a reçu deux pour les vaccins où il y a deux doses qui sont nécessaires. Donc, ça avance super bien. Et oui, l'objectif de 100 millions de doses, normalement, c'est aujourd'hui qu'on l'atteint. Fait que tout ça, c'est super bon. Maintenant, pour ce qui est de la question du prêt, ça me fait un petit peu sourire, un petit peu rire, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui ont entendu ça hier en se disant comment tu peux prêter un vaccin.
Ben.
Le gars de Charlevoix qui se fait vacciner, va-tu falloir qu'il redonne sa dose à un Américain trois semaines plus tard? Fait que je rassure tout le monde, c'est pas ça. La réalité, c'est que aux États-Unis, le vaccin, le fameux vaccin là, d'AstraZeneca, il n'est pas encore approuvé. Ça ne veut pas dire qu'il va être rejeté, ça veut juste dire qu'il est encore sous étude, sous enquête par la FDA, qui est l'agence qui va, ou non, là, donner l'approbation finale. Et donc, les Américains ont, de ce qu'on en comprend, à peu près 7 millions de doses dont ils ne se servent pas présentement et qui sont peut-être même appelés à carrément expirer. Donc, tant qu'à voir ça se produire, l'idée, c'est de les prêter, entre guillemets, de les shipper au Canada, dans, en tout cas une partie, à peu près 1,5 million. Il y en aurait 2,5 millions qui iraient au Mexique. Avec la compréhension mutuelle que quand le Canada va recevoir, quoi, je pense que c'est la vingtaine de millions de doses d'AstraZeneca, un petit peu plus tard dans l'année, ben, ils vont, entre guillemets, là, rembourser les Américains en doses de vaccin. Donc, on est là pour l'instant et présumant que ça se concrétise parce que c'est pas encore fait, ça serait d'ici la fin du mois de mars, donc dans les carrément les prochains jours que cette injection, si on veut, de doses-là additionnelles arriverait. Puis je conclue là-dessus, au Canada, c'est quand même pas rien dans le contexte où la vaccination va beaucoup moins rapidement. 1,5 million de doses, concrètement, ce que ça veut dire, c'est à peu près 40% de tout ce qui a été administré présentement à grandeur du pays. Fait que ça peut peut-être quand même avoir un impact dans le très court terme.
Raphaël, on te souhaite un excellent week-end. Ouais, on se reparle bientôt.
Même chose, monsieur. Bye-bye.
Salut, Raphaël Jacob de la chaire Raoul d'Endurant. J'écoutais Raphaël, puis en même temps, je regardais un truc qu'un auditeur nous a envoyé. Puis on est toujours méfiant, le studio deepfake, je sais pas, mais c'est des images de Joe Biden qui monte à bord d'Air Force One et qui plante trois fois d'affilée dans les escaliers. Faites attention à vos hanches, M. Biden. Là. Ouais. C'est le président. Là. Je pense que c'est authentique. Là. Il bêche comme trois fois d'affilée, puis là, il se relève, puis il s'en va en haut, puis il fait son petit salut avant d'embarquer.
Ça manque d'énergie aussi, de façon générale.
Un petit peu.
Ça, c'est sûr. Là.
OK, midi 42, on s'arrête dans Trudeau-Landry. On revient dans quelques minutes.
Jérôme Landry, Jonathan Trudeau.